Vous êtes sur RTL.
Place à l'info RTL Soir, Thomas Soto. Bonsoir Thomas.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous et bienvenue dans RTL Soir. Une Marseillaise, beaucoup d'émotions. C'était il y a quelques minutes devant l'hôtel de ville de Rambouillet dans les Yvelines. Cette commune où Stéphanie Montfermé, policière de 49 ans, a été assassinée par un Tunisien radicalisé. Ça s'est passé vendredi. Il y avait là tout à l'heure des centaines de personnes d'anonymes venues lui rendre hommage à cette femme agente administrative. Des officiels aussi, le ministre de l'Intérieur, le président du Sénat, la présidente de la région Île-de-France. Une cérémonie brève, sobre, mais qui n'éteindra ni la colère, ni le sentiment d'injustice face à ce drame, qui n'effacera pas non plus la peine du mari de Stéphanie ou le chagrin de ses deux filles. Elles ont 13 et 18 ans et elles pleurent leur maman. On va bien sûr y revenir dès le début de votre journal. Amandine Bégaud, bonsoir.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
Journal dont on découvre avec vous les autres grands titres.
Et Emmanuel Macron a commencé à préciser le calendrier du déconfinement. Cela devrait se faire par étape et région par région. C'est ça la nouveauté, au moins pour les restaurants. Dans ce journal également, bien sûr, la rentrée scolaire. Ça a parfois encore été compliqué à distance. Reportage avec une prof de collège qui, en début de journée, n'avait qu'un élève connecté, 1 sur 27. Et puis, on peut désormais aller aussi cinéma, et oui, en Italie, on vous emmènera dans l'une des salles mythiques.
On était prêts à partir avec Louis, là.
Mais non, il faut aller jusqu'à Rome.
Ouais, c'est pas mal en même temps. Hein.
Ouais.
Bonsoir Louis Baudin.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
La météo, eh ben, une fois n'est pas coutume, le soleil sera au nord.
Oui, en même temps, c'est vrai, aller à Rome, mais on traversera la pluie. Donc peut-être qu'il vaut mieux rester au nord, où effectivement, demain comme aujourd'hui, on aura du temps sec et très ensoleillé. Alors la limite devrait passer un peu comme aujourd'hui, entre La Rochelle et Besançon ou Genève. Au nord de cette limite, donc du soleil toute la journée. Au sud, bah, beaucoup d'instabilité, hein, comme aujourd'hui. Comme ce soir, où on attend des orages près de la Méditerranée, eh bien on aura cela tout au long de la journée demain, de l'Aquitaine jusqu'à la Méditerranée. Des averses parfois accompagnées d'orages près de la Méditerranée. Les températures bougeront assez peu par rapport à aujourd'hui. Pas de gelée le matin, même si on n'en sera pas très loin dans le nord-est. Et l'après-midi, 12 à 17 degrés près de la Manche, mais 17 à 22 dans toutes les autres régions.
Merci Louis.
RTL Soir.
Et pour commencer, donc, direction Rambouillet avec cet hommage. Hommage à Stéphanie, cette agente administrative tuée dans l'attentat de vendredi. Plusieurs centaines de personnes sont rassemblées ce soir devant l'hôtel de ville où la maire a pris la parole il y a quelques minutes.
Vendredi 23 avril, en début d'après-midi, une flamme s'est éteinte dans le cœur de tous. Stéphanie a été lâchement assassinée dans l'exercice de ses fonctions parce qu'elle a consacré sa vie pour celle des autres. On lui a ôté la sienne, si essentielle pour nous tous. À vous, sa famille, ses proches et ses collègues, je veux vous dire que vous n'êtes pas seuls. Les Rambolitains et la France entière sont avec vous et n'oublieront jamais.
Véronique Matillon, la maire de Rambouillet, effectivement très émue. Sinamir, bonsoir, vous êtes sur place pour RTL. Parmi la foule nombreuse, il y a donc des élus, beaucoup d'habitants aussi de la commune. Cela faisait plus de 28 ans que Stéphanie Montfermé travaillait à Rambouillet.
Oui, un lien assez fort que l'on a ressenti avant même le début de cet hommage. Déjà, le parking de l'hôtel de ville était noir de monde. Dans la foule, on a senti parfois les respirations s'arrêter, notamment lorsque les filles, le mari de cette fonctionnaire sont arrivées sur le perron de l'hôtel de ville. Il y avait aussi tout le long des barrières. Au premier rang, ces brassards de police portés par les collègues de Stéphanie. Martine a travaillé 20 ans avec elle à Rambouillet.
C'était la plus gentille qui peut s'exister. Toujours près des gens, jamais de mauvaise humeur. C'était une personne comme on n'en fait plus, malheureusement. Elle est partie et elle laisse son mari, ses enfants et sa famille dans une grande détresse. On pense qu'on rêve, on pense qu'on va se réveiller, qu'elle va être là, malheureusement.
Une flamme s'est éteinte dans le cœur de tous, a dit à la tribune la maire de Rambouillet, Véronique Matillon. Une flamme partagée par ces anonymes qui se sont massés spontanément derrière ces barrières aujourd'hui. Beaucoup ne connaissaient pas Stéphanie ni sa famille, mais souhaitaient tout simplement être là.
Une femme qui va au travail, qui est fonctionnaire, qui se fait tuer en allant au boulot, quoi. Je vous dis, elle a des filles qui ont l'âge de mes petits-enfants. Et je sais pas comment ça peut être géré.
Il faut montrer qu'on s'habitue pas, qu'on banalise pas, et qu'on porte les valeurs de cette République.
Après un court discours et une Marseillaise reprise dans la foule, l'hommage s'est limité à quelques minutes. Certains habitants déçus auraient voulu qu'il dure plus longtemps. Il était sobre, à l'image de Stéphanie, glisse une proche.
Merci Namir, en direct de Rambouillet pour RTL, des rassemblements aussi devant les commissariats et les gendarmeries, et ce, un peu partout en France. À Bordeaux, ils étaient une centaine de policiers réunis devant le principal commissariat de la ville. Éric Maroc est délégué du syndicat Alliance.
L'idée première, c'est déjà de rendre hommage à notre collègue Stéphanie, de démontrer la solidarité dans nos rangs face à l'horreur. Aujourd'hui, parce qu'on est policier, on peut être tué en service gratuitement. De dos, sans défense, prendre des coups de couteau dans le cou, c'est horrible, inacceptable. Et le monde qu'il y a aujourd'hui démontre la solidarité qui est dans nos rangs et l'exaspération aussi.
Des propos recueillis pour RTL par Philippe de Maria, notre correspondant à Bordeaux.
On ouvre à présent à 18h05 la page Covid avec le déconfinement qui semble ce soir se préciser, Amandine.
Emmanuel Macron a esquissé tout à l'heure un calendrier des réouvertures, celle des restaurants notamment. Ça va se faire par étapes, dit le président.
Alors, les terrasses, mi-mai, comme je l'ai dit, on va affiner la date dans les prochains jours. Mais je pense qu'on ne peut pas rouvrir les restaurants, disons, fin mai ou courant juin, dans des départements où ça circule encore beaucoup. Dans d'autres où ça a beaucoup baissé, je pense qu'il faudra les ouvrir.
Et bonsoir Vincent Derosier.
Bonsoir.
On vient de l'entendre, Emmanuel Macron confirme la territorialisation du déconfinement.
Oui, des mesures différenciées selon les territoires, un déconfinement par étapes et beaucoup de prudence surtout. Voilà en résumé la stratégie du président. Alors pour les terrasses comme pour une partie des commerces, la mi-mai reste l'objectif. Pour les restaurants en intérieur, il faudra au mieux attendre le mois de juin, mais avec une grande différence entre les départements. Pas question d'ouvrir les restaurants fin mai ou même en juin, là où le virus circule beaucoup, prévient le chef de l'État. Pour les lieux culturels, Emmanuel Macron maintient là aussi cet objectif du 15 mai. Pour les théâtres, les musées ou les cinémas, mais avec des conditions drastiques là aussi, des jauges limitées ou un accès privilégié pour les scolaires. Enfin, les sportifs, eux, devront attendre au mieux début juin pour aller transpirer en salle. Quoi qu'il en soit, rien n'est figé. Emmanuel Macron annonce des points d'étape, au moins 4 jusqu'à fin juin, avec à chaque fois des ajustements possibles. Le couvre-feu, lui, devrait être allégé dans une quinzaine de jours. Un calendrier en pointillé et encore en discussion qu'Emmanuel Macron présentera aux Français dans les jours à venir.
Merci beaucoup Vincent.
Ça
Vincent
se dessine un peu quand même tout ça, hein, petit à petit.
Avec un nouveau conseil de défense donc, qui aura lieu mercredi. Cette réouverture, elle est effective, Thomas, chez nos voisins italiens.
Vous nous mettiez l'eau à la bouche et avec Louis tout à l'heure.
Les bars, restaurants et pizzerias ont repris du service aujourd'hui.
Même on va même pouvoir aller dîner, Louis, dis donc. C'est...
Et voilà, et avant vous ferez un petit cinéma donc. 6 mois que cela n'était pas arrivé pour les cinémas. Olivier Bonnel, vous vous êtes rendu au Farnèse. C'est une salle historique du centre de Rome.
Un film sur les héritiers du grand maître Rossellini. Quoi de mieux pour les cinéphiles romains venus célébrer la réouverture des salles obscures? Paola est venue faire la queue devant l'un de ses cinémas préférés de la ville.
Je suis très heureuse que le cinéma puisse rouvrir. En particulier le Farnese, que j'adore et qui est une institution à Rome. C'est terrible, mais je ne me souviens même plus la dernière fois où je suis allée au cinéma.
Cela fait depuis octobre que les salles étaient fermées en Italie, après seulement quelques semaines d'ouverture à l'automne. Mais beaucoup de cinémas restent portes closes. Le Farnese, lui, fait exception. Son patron, Fabio Amedei, a pris le maximum de précautions.
Tout est désinfecté. Dans la salle, une place sur deux est occupée et on relève la température à l'entrée. Ne rentrent que ceux qui n'ont pas plus de 37 degrés. On a tout fait pour assurer le confort du spectateur.
Cette ouverture a des airs de Dolce Vita. Le Farnèse proposait cet après-midi Nomadland. Le circuit des cinémas romains espère ainsi surfer sur le succès du grand gagnant des Oscars.
Olivier Bonnel à Rome pour RTL, ça donne envie, hein ?
Un petit peu.
Bon, ici en France
popcorn
aujourd'hui...
Popcorn sucré, salé ?
Salé.
On est d'accord.
Bon, c'était rentrée scolaire sinon aujourd'hui en France, à l'école pour les plus jeunes, les maternelles et les primaires, et à la maison pour les collégiens et les lycéens. Pas de panne générale cette fois, mais encore de sérieux bugs tout de même. Illustration avec vous, Nathan Bocard, vous avez passé la journée avec une professeure de français.
Ce matin, Camille a dû annuler son cours de français pour une bonne raison. Seul un élève de sa classe de 5e avait réussi à se connecter. Pour la leçon de 14h, elle espérait une meilleure audience, mais en se connectant au CNED, ses espoirs sont vite douchés.
Pour l'instant, ils sont 2 sur 31, à 5 minutes du cours. Ça va aller. Oui Marie, je t'écoute.
Je sais pas si vous m'entendez ou pas.
Oui, je t'entends.
Edouard, il a essayé. Il me demande si vous le voyez dans la salle d'attente.
Non, il n'est pas en salle d'attente.
Ça fait ça pour tout le monde.
Face à ces problèmes de connexion réguliers, le CNED a donné quelques conseils aux enseignants. Camille demande donc à ses élèves de changer de navigateur ou d'utiliser un autre lien pour se connecter sans passer par la salle d'attente. Succès mitigé, ils sont maintenant 11 dans la classe virtuelle. C'est peu, mais suffisant pour Camille.
C'est pas une mauvaise statistique, étonnamment. Que ce soit en 2020, l'année dernière, où c'était très compliqué, ou cette année, il n'y a pas eu de changement. On est face aux mêmes contraintes, aux mêmes problèmes. Que ce soit les élèves, les parents ou les professeurs, on ne peut rien faire, en fait.
Et pour contourner ces problèmes, certains ont des plateformes privées, comme Zoom ou Teams.
Nathan Bocard pour ce reportage d'RTL. Incident limité, hein, oui, dit ce soir le ministère de l'Éducation nationale.
C'est pas la même ampleur qu'avant les vacances scolaires. Petite pause dans un instant. On va à Strasbourg. Strasbourg dont le Parlement européen est en danger. On vous explique pourquoi.
RTL Soir. RTL Soir, Thomas Soto.
Et Amandine Bégaud pour la suite du journal à 18h11, avec donc cette nouvelle mobilisation à Strasbourg. Strasbourg qui veut défendre son Parlement européen.
Et plusieurs élus alsaciens se sont réunis pour défendre leur ville, leur région, au-delà du Parlement. Depuis plus d'un an et le début de la crise sanitaire, les députés européens n'ont en effet pas mis les pieds à Strasbourg. Tout se passe à Bruxelles. Et ça inquiète Yannick Collin.
Oui, les drapeaux des 27 flottent devant un Parlement vide. Depuis février 2020, ils restent à Bruxelles. Raison invoquée, l'épidémie de Covid. Jeanne Barseguian, la maire de Strasbourg.
Je ne suis pas dupe que certains peuvent utiliser la crise sanitaire contre Strasbourg. Par contre, j'ai la conviction intime, et il me l'a réaffirmé la semaine dernière, que le président du Parlement européen, David Sassoli, souhaite le retour des plénières. Strasbourg est évidemment prête. Maintenant, on attend que le taux d'incidence baisse.
Frédéric Biry, le président de la collectivité européenne d'Alsace, va plus loin. Pour lui, la situation est un alibi des défenseurs de Bruxelles.
Ça ne sent pas le roussi, mais il faut être vigilant. Je trouve qu'on prend les habitudes de ne plus venir à Strasbourg et les parlementaires vont oublier qu'il y a deux lieux pour exercer leur fonction de parlementaire. Et donc, je crois qu'il faut qu'on montre notre détermination. Mais aujourd'hui, la Belgique et Bruxelles sont plus touchés que Strasbourg. Donc, on ne peut pas accepter que pour la 13e session consécutive, elle n'ait pas lieu à Strasbourg.
Les Alsaciens qui espèrent que ce sera la dernière session fantôme à Strasbourg et que les députés reviendront dès le mois de mai.
Yannick Collin à Strasbourg pour RTL. Et puis l'actualité se sent aussi serrée et actions nombreuses après le soutien de Marine Le Pen à une tribune d'anciens militaires. Florence Parly, la ministre des Armées, accuse la présidente du Rassemblement National d'instrumentaliser justement les armées. Bonsoir William Galibert.
Bonsoir.
On va reprendre cette affaire au point de départ avec vous, si vous le voulez bien. De quoi s'agit-il ?
Eh bien, c'est un texte publié par l'hebdomadaire Valeurs Actuelles, signé par des militaires, dont parmi eux une vingtaine de généraux aujourd'hui à la retraite. Le ton forcément est très martial. Que disent-ils ? Que le pays est au bord de la guerre civile, que la France est en péril. Ils s'inquiètent, je cite, de l'islamisme et des hordes de banlieue. Si rien n'est entrepris, écrivent ces militaires, le laxisme continuera à se répandre, provoquant l'intervention de nos camarades d'active. Fin de citation. Alors certains voient dans ces lignes rien de moins qu'une menace de putsch, de coup d'état militaire. L'eurodéputé Philippe Olivier du Rassemblement National y lit plutôt un constat de vérité et se réjouit qu'à son tour Marine Le Pen ait pris sa plume pour inviter ses militaires à la rejoindre.
Il y a beaucoup de Français qui emploieraient les mêmes mots quand vous voyez l'agression du jeune Youri. Est-ce qu'on ne peut pas parler de horde et même de l'ensauvagement ? C'est même les ministres de Macron qui emploient ces termes-là. Donc ne leur faisons pas ce reproche. Marine leur a répondu, elle leur a répondu en leur disant qu'elle comprenait leur indignation et qu'elle les appelait à les rejoindre dans le cadre d'un projet démocratique validé par les urnes.
Et vous l'avez dit, Amandine, réaction très nombreuse à gauche. D'abord où Jean-Luc Mélenchon parle de déclarations stupéfiantes. Et au sein du gouvernement, ensuite, ces dernières heures, Agnès Pannier-Runacher, notamment ministre chargée de l'Industrie, qualifie les auteurs de ce texte de carterons de généraux en charentaise. Sur le soutien de Marine Le Pen, elle ajoute « les masques tombent et le vernis craque ».
William Galibert du service politique d'RTL. Merci William, la bonne nouvelle.
RTL Soir, la bonne nouvelle du jour.
Je ne sais pas qui c'est. Kanye West, le rappeur.
Ah oui.
Et ouais. Il a encore la cote, figurez-vous, Thomas. Et pas qu'un peu. Des baskets lui ayant appartenu viennent d'être vendues 1,8 million de dollars aux enchères. C'est énorme, c'est un record. C'est même trois fois le précédent record.
C'est les deux pieds à ce prix-là ou
oui, c'est les deux pieds à ce prix-là. Le précédent record, c'était des baskets qui avaient appartenu à Michael Jordan, vendues 600 000 dollars.
J'ai un 42 filles, je vous le fais moins cher, hein, si vous voulez.
Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle. C'est un marché, paraît-il, qui se porte bien, ces baskets d'occasion ayant appartenu à des stars.
La vraie bonne nouvelle, c'est que vous êtes de retour avant
tout. C'est gentil.
Ah, oui, je vous reviendrai d'ailleurs à 18h30 pour le rappel. À tout à l'heure. Après l'immense émotion liée au meurtre de Sarah Halimi, faut-il vraiment changer la loi ? Oui, dit le gouvernement, c'est pas si simple, répondent les auteurs d'un rapport sur l'irresponsabilité pénale. Philippe Houillon, qui est le co-auteur de ce rapport, est l'invité d'RTL Soir. C'est tout de suite et c'est en direct.
RTL Soir, Thomas Soto. RTL Soir, Thomas Soto.
Après l'immense émotion née de l'affaire Sarah Halimi, la Cour de cassation ayant jugé son meurtrier irresponsable, le meurtrier de cette femme, juive, torturée et défenestrée, ne sera jamais jugé. Le ministre de la Justice a promis de changer rapidement la loi. Philippe Houillon est l'invité d'RTL Soir. Bonsoir et bienvenue à vous, Philippe Houillon.
Bonsoir.
Vous êtes le co-auteur du rapport Mission sur l'irresponsabilité pénale, rapport que vous avez commandé en juin 2020, celle qui était alors garde des Sceaux, Nicole Belloubet. Alors, qu'en dites-vous, Philippe Houillon ? Est-ce qu'Éric Dupond-Moretti a raison de vouloir changer la loi ?
C'est une question simple à une la réponse est particulièrement complexe. Je vais essayer de m'expliquer et vous dire immédiatement que cette mission qui était composée de hauts magistrats, d'avocats, de psychiatres bien sûr, et de deux anciens parlementaires, a conclu au maintien des dispositions de la loi actuelle.
Donc on ne doit pas changer la loi.
La loi actuelle, alors je vais essayer d'apporter un petit addendum quand même à mon propos. La loi actuelle, c'est quoi ? C'est un article qui est 122-1, peu importe, et qui dit deux choses. Premièrement, lorsqu'il y a abolition du discernement, abolition totale du discernement, il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas de procès, et c'est donc malheureusement ce qui s'est passé dans l'affaire Halimi-Traoré. Et évidemment, ceci a suscité une telle émotion qu'on s'est demandé, Madame Belloubet s'est demandé s'il n'y avait pas quelque chose à modifier, surtout que nous sommes en plus sur fond d'antisémitisme, enfin tout ça est inacceptable et insupportable, évidemment, d'où la réflexion. Et puis la deuxième chose que dit la loi, c'est lorsque le discernement est non pas aboli mais altéré, alors il y a une culpabilité, alors il y a un procès et il y a simplement, si je puis dire, une réduction du maximum de la peine. Quelle est la question fondamentale qui se pose ? C'est que nous avons un principe de droit pénal et qui est un principe qui est une colonne vertébrale du droit pénal, un principe fondamental qui est de dire il n'y a pas de crime sans intention de le commettre. Et cette intention, elle doit exister au moment de la commission de l'acte.
En gros, j'ai conscience de ce que je fais au moment où je tue quelqu'un.
C'est ça, voilà. C'est ça. Et ça, c'est un principe fondamental. Et quand il y a une abolition du discernement, par définition, il n'y a pas de volonté de commettre, il n'y a pas d'intention, donc il n'y a pas de culpabilité. Alors, quand on a dit ça, il y a plusieurs situations qui peuvent se poser. D'abord, celui qui est totalement malade psychiatriquement, c'est-à-dire un fou, si vous m'autorisez l'expression. Et là, tout le monde est d'accord, c'est unanime. On ne juge pas les fous.
On les soigne.
Par conséquent, il n'y a pas de procès. Il y a une deuxième hypothèse, celle d'une personne qui va s'alcooliser ou prendre des psychotropes dans le but de se donner du courage pour commettre un crime. Et là, on est en quelque sorte en présence d'un continuum d'intentions. J'ai l'intention d'aller tuer, j'ai pas forcément le courage de le faire, mais je sais que je vais le faire, et donc pour aller le faire, je prends de l'alcool. Là, ça me paraît aussi simple, c'est-à-dire qu'il y a bien une intention qui est d'aller commettre un crime, et par conséquent, il peut y avoir une culpabilité. Reste la dernière hypothèse, qui est celle qui occupe les débats actuels, c'est celle de quelqu'un qui va absorber de l'alcool, qui va prendre des psychotropes sans aucune intention, et certainement pas l'intention d'aller commettre un meurtre, et puis qui va finalement commettre un meurtre, et qui va commettre ce meurtre sous abolition, c'est-à-dire alors qu'il n'a pas cette intention, alors qu'il n'a pas conscience.
Et le débat actuel, pardon de vulgariser, mais au moment où il le fait, il n'a pas conscience de ce qu'il fait. Voilà.
C'est ça. Il n'a pas conscience de ce qu'il fait. Son discernement n'existe pas à ce moment-là.
Vous avez posé le décor. Mais quand même, on entend l'émotion légitime qu'a fait naître le crime abominable et le meurtre de Sarah Halimi. On a vu la foule, on a vu la réponse gouvernementale. Est-ce qu'il faut changer la loi ou pas? Est-ce qu'il faut adapter la loi ou pas? Qu'est-ce que vous dites dans ce rapport?
Oui, mais alors peut-être qu'il faut l'adapter, mais pas forcément comme je l'ai lu. Je m'explique. Vous avez quelque chose qui existe déjà, hein, c'est-à-dire en matière automobile. Quelqu'un qui va absorber de l'alcool ou des psychotropes et qui va tuer quelqu'un, eh bien, ça s'appelle un délit d'homicide aggravé, avec un maximum de la peine qui est porté à 7 ans d'emprisonnement. Bon.
C'est-à-dire que le fait d'avoir bu de l'alcool avant aggrave, est une circonstance aggravante.
C'est ça. Donc dans l'affaire dont nous parlons, ou dans les cas de ce type, le vrai problème qui suscite l'émotion est bien légitime. C'est qu'une fois que l'irresponsabilité pénale est déclarée, il n'y a plus rien. Il n'y a pas de procès. Et donc, on est en train d'essayer de récupérer, pardon, si c'est un peu technique, pardonnez-moi, de récupérer l'intention de départ, celle qu'on a eue au moment de la prise d'alcool ou de psychotrope, pour la faire voyager jusqu'au moment du crime où on n'avait pas d'intention. Donc, il y a bien quelqu'un qui est mort, malheureusement, d'un crime. Il n'y a pas d'intention, c'est donc quoi? Est-ce qu'il ne faudrait pas changer la loi en se disant que c'est quelque chose du domaine de l'homicide involontaire, mais aggravé, parce qu'on s'est mis en situation de pouvoir commettre ce meurtre?
Donc vous dites quand même que dans ces circonstances particulières, il faudrait trouver un moyen de juger quand même si ce n'est pas sous le même régime, mais en tout cas il faudrait trouver un moyen de juger.
Sans faire disparaître le principe fondamental de l'intention au moment de la commission de l'acte.
Mais quand même, Philippe Houillon, dans l'affaire Halimi, comment peut-on dire, comme l'ont fait les juges, c'est un crime antisémite, et dire dans le même temps, son auteur était irresponsable? C'est-à-dire quoi? L'auteur, il est suffisamment lucide pour commettre un crime antisémite, mais il est trop fou pour être jugé pour ce crime. Il y a quand même quelque chose qui cloche, là.
Vous avez raison, je partage cet avis. Comment peut-on conjuguer les deux? A-t-il conscience de commettre un crime antisémite, ce qui est évidemment insupportable, alors même qu'il est irresponsable? Je suis d'accord, je considère que c'est une sorte de contradiction intellectuelle et juridique, parce que c'est ou l'un ou l'autre, ou c'est un crime antisémite, ou c'est un meurtre commis sous abolition totale. Mais les deux conjugués me paraissent être une approximation, pardon.
Donc là, il va falloir changer la loi quand même, parce qu'on comprend la colère des proches des victimes dans ces cas-là. On leur dit, c'est un crime antisémite, mais on ne peut pas le juger parce qu'il est fou. Mais il est suffisamment pas fou, entre guillemets, pour avoir commis un crime antisémite. Ça tient pas debout.
Non, mais là, attendez, c'est une décision qui a été rendue. On n'est pas sur les principes, on est sur une décision et dans laquelle je trouve, comme vous, qu'il y a une sorte de contradiction, car soit son discernement est aboli et c'est pas un crime antisémite ni autre chose, soit c'est un crime antisémite. Si c'est un crime antisémite, c'est qu'il a eu la volonté d'aller commettre un meurtre sur quelqu'un de confession juive, auquel cas il n'y a pas d'abolition du discernement. En tout cas, la question se pose. Je trouve que c'est une contradiction dans la décision. Bon, en revanche, sur un plan général, puisque notre réflexion était générale et nous ne connaissions pas d'ailleurs l'arrêt de la Cour de cassation à ce moment-là, sur un plan général, moi je pense qu'il ne peut pas ne pas y avoir de réponse du tout dans ce cas particulier, c'est-à-dire quand on s'est mis en situation de prendre le risque donc d'aller commettre un meurtre ou un crime quelconque.
Donc vous dites, si j'ai bien compris, pour me permettre de résumer un peu votre pensée...
Mais je pense que c'est involontaire au moment de la commission, à partir du moment où il y a une abolition... La prise de stupéfiants ou d'alcool est volontaire, d'accord? Donc il y a une intention à ce moment-là. En revanche, si les psychiatres estiment qu'il y a une abolition au moment même de la commission de l'acte, c'est-à-dire du crime, alors... Il n'y a pas d'intention, alors il n'y a pas de volonté.
Et c'est là qu'on passe de l'homicide involontaire
à
l'homicide involontaire.
Si on va dans le sens de ce que je suis en train de lire en ce moment, on s'aborde, un principe fondamental de notre droit pénal qui est de dire qu'il n'y a pas de crime sans intention de le commettre.
Donc ce que vous dites à Emmanuel Macron ou à Éric Dupond-Moretti, c'est attention, il faut sans doute adapter un peu notre droit, mais il ne faut pas tout mettre par terre, c'est ça?
C'est ça.
Eh bien, merci beaucoup,
Philippe Houillon. Mais je vous en prie. Je vous en prie.
Merci à vous d'avoir été en direct et en duplex dans RTL Soir. Et merci à Olivier Masson qui était à vos côtés pour la technique. À suivre, l'œil de Natacha Polony, la directrice de Marianne, qui voit le décor de la prochaine présidentielle s'installer. Et l'insécurité, une nouvelle fois, se verrait bien tout en haut de l'affiche.
Thomas Soto, RTL Soir.
RTL. 18h et presque 30 minutes.
RTL Soir avec Thomas Soto.
Et Amandine Bégaud pour le rappel.
Et à la une, cet hommage ce soir à Rambouillet, hommage à Stéphanie Monfermé, cette agente administrative tuée dans l'attentat de vendredi. Une cérémonie sobre devant l'hôtel de ville. Rambouillet a perdu une part d'elle-même. Voilà ce qu'a dit la maire de la commune. Cela faisait 28 ans que cette mère de famille travaillait dans le commissariat de la ville. Emmanuel Macron lui a esquissé aujourd'hui le calendrier du déconfinement, réouverture par étapes pour les restaurants, les terrasses mi-mai, puis l'intérieur, mais selon les régions, en fonction de l'évolution de l'épidémie. Le couvre-feu, lui, pourrait être décalé 19h. C'est très tôt, a dit le président, lors d'une visite dans une école où les cours ont repris ce matin. Ça se passe en classe pour les maternelles et primaires, on rappelle. Et puis à distance, à la maison, pour les collégiens et lycéens, jusqu'à la semaine prochaine.
La météo, c'est clair comme du déconfinement, oui. Louis. Il y aura du soleil, mais attention, il n'y aura pas du soleil pour tout le monde. Hein.
Non, et c'est chacun seulement au nord. Pour une fois, c'est à l'envers de la situation habituelle. Soleil au nord, nuages au sud, avec vraiment une France coupée en deux, puisque la limite, ça sera en gros La Rochelle, le Besançon, La Rochelle, le Genève, ou au nord, donc ça sera du temps ensoleillé toute la journée, ça avec un peu de fraîcheur le matin, parce qu'il y a ce vent de nord-est, là, on l'a tous senti, qui au lever du jour donne quand même du froid, puis au sud de cette limite, eh bien là, ça restera nuageux toute la journée, avec des averses, parfois accompagnées d'orages, notamment en cours d'après-midi, le tout avec des températures donc un peu fraîches le matin dans la moitié nord, avec ce ciel dégagé, puis l'après-midi, douceur pour tout le monde, 13 à 17 degrés près de la Manche, mais 17 à 22 degrés ailleurs.
Merci Louis. Nous sommes lundi et c'est l'œil de Natacha Polony qui s'ouvre sur l'actualité. Bonsoir Natacha.
Bonsoir.
Alors on a l'impression que la campagne électorale, ça y est lancée, que le débat, une fois de plus, une fois encore, va se focaliser sur les questions de sécurité. On n'est déjà pas loin d'une petite surenchère. Hein. Pourquoi rien ne change? Pourquoi c'est tout le temps pareil?
Ben oui, de fait, vous avez bien compris qu'Emmanuel Macron n'avait pas eu besoin de l'attentat de Rambouillet pour lancer une offensive. C'était en début de semaine dernière,
lundi dernier,
dans le Figaro. Ouais. Politiquement, c'est simple. Il se dit que la gauche est fracturée, mais que le risque pour lui, c'est donc à droite. Donc il doit empêcher la droite de lui intenter un procès en laxisme. En face, au contraire, les Républicains qui n'ont en fait rien à proposer économiquement de différent d'Emmanuel Macron, bah, il leur reste que la sécurité pour tenter de se démarquer. Ça, c'est la cuisine politicienne. Mais la question à se poser, c'est celle-ci. Pourquoi, à intervalles réguliers, ce sujet refait-il surface? Est-ce que c'est parce que la France serait en pleine dérive droitière, hein, certains l'affirment, ou parce que l'évolution de la société, le contexte mondial aussi, viennent amplifier l'impuissance politique sur ces questions? Il faut quand même se rappeler d'ailleurs que la campagne de 2017, elle, ne s'est absolument pas faite là-dessus, mais sur les costards de François Fillon. Après Charlie Hebdo, le Bataclan, la promenade des Anglais, on s'est payé le luxe d'une campagne électorale sans réflexion sur le terrorisme. Et l'islamisme, chapeau.
Alors quoi, vous dites quoi, qu'il faut se réjouir de voir les futurs candidats pour 2022 aller là-dessus, aller sur ces sujets?
Le problème, c'est qu'évidemment, on a droit à un concours de démagogie. D'un côté, regardez, on a tout bien fait, mais on va voter une loi supplémentaire quand même. Et de l'autre, c'est on a tout bien fait quand on était au pouvoir, mais il faut faire encore plus. Or, ce sujet mérite la nuance et surtout une réflexion sur le long terme.
La nuance, c'est pas l'époque.
Hélas, hein, depuis 2 ou 3 ans, les attentats commis par des étrangers en situation irrégulière ou récemment régularisés sont les plus fréquents. Totalement indétectables, sauf à espionner les pages Facebook d'à peu près tout le monde. Donc augmenter le nombre de policiers antiterroristes, ça ne suffira pas. On est en train de parler des conséquences d'une immigration mal gérée dans un contexte où le djihadisme offre une porte de sortie, une identité de substitution à ceux qui nourrissent ressentiment et frustration envers la France.
Mais d'ailleurs, Jamel Gauchren avait consulté en psychiatrie, hein, l'homme qui a tué la policière.
Et la question du suivi psychiatrique, elle est essentielle. Gérer l'immigration, c'est accueillir décemment ceux qui doivent l'être, leur donner la possibilité de s'intégrer correctement par le travail, les accompagner même psychologiquement pour ceux qui ont subi des réalités extrêmement difficiles, et puis c'est renvoyer réellement ceux qui n'ont pas vocation à rester. En fait, l'horreur de Rambouillet ne sera pas traitée par des dispositions sécuritaires liées à l'antiterrorisme, mais par un travail de la France et de l'Europe pour porter une politique migratoire digne de ce nom.
C'est sûr que c'est plus compliqué à mettre en œuvre que quelques phrases lapidaires qu'on balance au cours des interviews. Hein ? Merci Natacha Polony, on vous lit évidemment dans Marianne toutes les semaines. Et demain, mardi, nous retrouverons
Philippe Cavrivière.
Vous vous souvenez de lui, vous ?
Bah, toujours.
Moi, j'avais oublié pendant le week-end. Allez, merci Natacha et à lundi. Merci. Certains sont sortis du loft, d'autres sont partis 6 mois dans l'espace. Lui et ses 14 camarades d'aventure sont remontés de leur grotte après y avoir passé 40 jours hors du temps et coupés du monde. Christian Clos vient nous raconter cette aventure vraiment peu ordinaire dans RTL Soir tout de suite.
RTL Soir, Thomas Soto. Thomas Soto,
RTL Soir.
Ils sont donc 15, ils viennent de passer 40 jours 400 mètres sous terre dans une grotte de l'Ariège avant de remonter à la surface ce week-end. À leur tête, celui qui a eu l'idée de cette mission Deep Time, il s'appelle Christian Clos et il est avec nous ce soir. Bonsoir et bienvenue dans RTL Soir, Christian Clos.
Bonsoir.
Alors vous étiez déjà venu nous voir quelques jours avant de descendre. Disons, vous avez maigri, non?
Un petit peu, ouais. Pourtant, on a bien mangé quand même, on a beaucoup mangé, mais bon, on vivait à 10 degrés, 100% d'humidité, avec des rythmes un peu particuliers, donc c'est très demandeur en énergie. Et puis le cerveau a beaucoup travaillé et on sait que le cerveau, c'est ce qui consomme le plus.
Et vous redoutiez l'humidité, hein, vous nous l'aviez dit. Hein. Je crois que de ce point de vue-là, c'était pire que tout ce que vous aviez.
On nous avait dit 95, on a eu 100%. Ça paraît pas grand-chose de différence, mais c'est assez exponentiel quand même l'impact.
Ouais. Bon, comment ça va? Dans quel état vous sortez de cette immersion, Christian?
Ravi d'avoir fait ça. On a vécu l'expérience
un peu pas l'eau.
C'est sûr qu'on a pas eu de soleil, mais bon, on a fait une super expérience, un groupe extraordinaire, et puis fatigué quand même, hein, fatigué parce qu'on a, moi, quand ils sont venus me chercher pour dire c'est fini, j'étais à mon 3e jour quand même.
Attendez, vous êtes tous restés 40 jours, sauf qu'il n'y en a pas un qui a vécu le même séjour. Pourquoi vous dites que vous étiez à votre 30e jour?
Parce qu'en fait, on devait suivre chacun nos cycles personnels, nos veilles, nos sommeils, et donc chacun allait se coucher quand il avait besoin, et se levait, puis recommencer une nouvelle journée au moment où il se levait. Et ben, on a une personne, Émilie, qui était à 123e jour par rapport à ce rythme.
Donc elle a fait des immenses journées.
Des immenses nuits, ouais, on ne sait pas encore. Et puis d'autres qui étaient à leur 32e, si je ne m'abuse, et moi j'étais au 30e, mais ça veut dire que c'est une vraie surprise, c'est-à-dire que la moyenne général de l'équipe est à 29 jours. Ça veut dire qu'on a un décalage de quasiment un quart par rapport à la réalité.
Ça veut dire que quand on se coupe du temps, qu'on n'a plus de rapport temporel, qu'on n'a plus de rapport à la lumière, notre rythme naturel, c'est peut-être pas forcément celui qu'on s'impose. Est-ce qu'on peut en déduire quelque chose de ça?
Oui, alors il faudra qu'on étudie. Ça n'a jamais été observé, ce genre de décalage. Il y a eu des décalages d'une demi-heure, il y a eu des décalages de 48 heures. Mais là, on est dans un décalage étonnant qui n'a jamais été observé. Et donc, il va falloir qu'on essaie de bien comprendre. Et je crois qu'une des raisons, c'est que la biologie nous dicte effectivement des règles, mais le cerveau aussi. Quand on est dans un groupe, on a besoin d'une synchronicité collective. Et c'est finalement le groupe
quand il y en a un qui passe 40 jours, l'autre 23 jours, la synchronicité, l'esprit d'équipe, il doit quand même en prendre un coup, non?
Et ben si, justement, parce qu'en fait, on a réalisé que à un moment donné, vers le 20e cycle, 22e cycle, on a retrouvé une sorte de, même si on n'avait pas tout à fait les mêmes moments de coucher ou de lever, on a retrouvé une forme de fonctionnement collectif où tout le monde était levé un peu en même temps et se couchait. Et il y avait des vraies périodes où on était tous ensemble. Et ça, c'était assez nouveau. Donc le groupe est un vrai synchronisateur et ça, c'est une super nouvelle.
Mais il y avait vous fixiez-vous des règles en tant que chef de l'expédition ou c'était vraiment chacun vit sa vie et vit ses nuits comme il l'entend
Alors, il y avait peu de règles, il y avait deux règles. Hein. C'était on ne se réveille jamais et on respecte ses rythmes. On avait le droit de se réveiller les uns les autres. Cependant, vers le 15e, 16e cycle, quand j'ai vu qu'il y avait une sorte d'apathie qui s'installait, j'ai redonné, mais peu fortement, mais une injonction à, voilà, on a des tâches à accomplir, il faut qu'on le fasse. Et en fait, rien que ça a suffi à ce que tout le monde se dise, attends, ouais, effectivement, il faut qu'on se réorganise. Et en fait, toujours sans se réveiller les uns les autres et en gardant ses propres rythmes, mais on a vu que les tâches appelaient...
C'était quoi ces tâches?
Alors, il y avait des tâches, alors, d'abord scientifiques sur nous-mêmes, hein, 2 heures à peu près de travaux par jour, mais ça, on les avait respectées tout le temps. Après, on avait des tâches de nettoyage de la grotte qui depuis maintenant environ 800 ans est visitée d'une manière ou d'une autre. Donc, il y avait énormément de choses dedans. On a des glyphes, des tas d'inscriptions murales. Il y en a des milliers. On a fait le répertoire de ces inscriptions murales. On a cherché les insectes et les animaux qui vivaient dans la grotte. Ouais, tout un travail de compréhension
du milieu. Vous vous occupiez quand même.
Voilà.
Pas simplement,
on a topographié la grotte en 3D. Ce sera une première mondiale. Alors, a priori, on a topographié la grotte en entier en 3D. C'est extraordinaire. Donc, beaucoup de tâches à faire, en fait.
Et la cohésion de groupe, il y a dû y avoir des tensions quand même, non? C'est pas complètement naturel de se mettre à 400 mètres sous terre avec 100% d'humidité. Vous êtes tout maigre, vous n'avez pas dû assez manger.
Ouais.
Donc il y a quand même dû y avoir des moments un peu tendus, non?
Ouais, mais on a réussi à noyer personne, c'est déjà pas mal, je trouve.
Effectivement, c'était l'objectif, il est réussi.
L'objectif réussi. Non, c'est vrai qu'il y a évidemment, comme tout groupe, quelques tensions, mais extrêmement peu compte tenu de la circonstance. Et vraiment, le groupe a fait preuve d'une résilience collective extraordinaire. Mais je me dis, vraiment extraordinaire, dans le sens qu'à chaque fois qu'un problème arrivait, il y a toujours quelqu'un qui le prenait en charge et qui faisait en sorte de l'apaiser, d'assainir la situation, de parler aux uns et aux autres. C'était moi, mais parfois c'était d'autres personnes. Et à chaque fois, les tensions se sont apaisées très rapidement avec une vraie volonté de tout le groupe de faire fonctionner son système. Et ça a été très positif.
Vous savez à peu près, question pas simple, parce que vous n'avez pas de notion, notion de temps, mais au bout de combien de temps vous perdez cette notion du temps ?
Je crois que c'est arrivé très vite. On a un marqueur simple, c'est qu'à 7 jours pour nous, une personne est sortie de la grotte, c'était prévu, c'était une personne qui faisait des images et qui devait sortir à un moment donné, donc elle est sortie sans nous prévenir, voilà, c'était le moment, enfin elle m'a prévenu moi, mais elle est sortie quand elle estimait que c'était son temps de sortie, et déjà là, il y avait environ 12 heures de décalage. Donc le décalage est arrivé assez vite, mais 12 heures c'est assez peu. Là où à mon avis le décalage s'est vraiment marqué, c'est entre le cycle 10 et 20, où on a vraiment là, on avait fini le travail de préparation, de mise en place, d'apprentissage et tout, on n'était pas encore rentré dans le travail concret de mise en œuvre dans la grotte. Et là, il y a eu une période d'apathie où on ne savait plus trop où on en était. Mmh. Et il s'est passé beaucoup de choses dans ces cycles-là.
Et est-ce que dans, cet enfermement, on se met un peu en mode marmotte ? Est-ce que l'organisme se met un peu au ralenti ? Est-ce que vous avez senti ça ou pas du tout ?
Pas du tout, mais c'est sûrement un peu le cas. C'est-à-dire que l'analyse des données sommeil va être passionnante.
Tout ça a été enregistré chez chacun d'entre vous et tout ça va être étudié maintenant. Hein.
Tout à fait, tout ça va être étudié, mais non, on a plutôt l'impression d'avoir fait des nuits, moi par exemple j'ai l'impression d'avoir fait des nuits très courtes, ouais. Mais par contre ultra qualitatives. Moi quand je me réveillais, c'était à l'instant, bon c'est vrai dans la vie de tous les jours, mais là encore plus, à l'instant où je me réveille, j'étais super bien, prêt à agir et tout ça, et c'était vrai pour mes collègues la plupart du temps. Maintenant, si ça se trouve, j'ai fait 12 heures de nuit, alors ouais. Que j'ai pas l'impression d'en avoir fait seulement 3. Donc ça va être, voilà, c'est très particulier de se réveiller dans la nuit, j'allais dire au milieu de la nuit, mais
il n'y avait que la nuit,
on était
hein.
toujours dans la nuit, et de ne pas du tout savoir combien de temps on a dormi. Ouais. C'est intellectuellement,
taper sur le système. Est-ce que vous avez des petits moments de déprime ou de blues ?
Ouais, il y a eu des personnes qui ont subi des moments de difficulté et on a tous subi à un moment donné de questionnement. Il faut tout de suite, justement, et ça c'était quelque chose que j'ai essayé d'inciter les gens à faire, c'est de quitter totalement le monde de la surface, de ne pas réfléchir mais quelle heure il est pour eux, quelle heure il est pour moi. Non, de dire, voilà, maintenant mon monde c'est cette grotte et c'est l'absence de temps, donc j'y pense plus autant. Ouais. Mais c'est très difficile à faire.
Qu'est-ce qui a été le plus dur ?
Le plus dur, je crois que... Alors finalement, peu de choses. Hein, on a vraiment réussi à mettre en place un système très fonctionnel et agréable. Mais néanmoins, voilà, on n'avait pas de soleil. Cette absence de soleil, on le réalise aujourd'hui. Hein, c'est plutôt quand on est sorti maintenant qu'on commence à réaliser qu'on est très impacté physiquement, qu'on est très fatigué, que le soleil nous a manqué.
Vous sentez comment là après ? Là, vous avez fait 2 nuits sous une vraie couette, normalement.
Ouais, c'est ça. Alors, une et demie, en réalité. Des nuits courtes, parce qu'il y avait tellement à réorganiser. Mais non, c'est vrai que c'est très surprenant d'avoir un réveil. Là, pour prendre l'avion pour venir à Paris, je devais partir à 4h du matin, j'ai mis un réveil. Ouais. C'est quelque chose qui était totalement sorti de mon concept. Ça a été d'une violence extraordinaire après seulement 40 jours pourtant. Hein. Ouais. C'est le moment où j'ai dû mettre un réveil et me faire réveiller par quelque chose de non naturel.
Et il y avait une angoisse de retrouver la vie normale ou pas ? Quand on vous dit ça y est, c'est fini, qu'est-ce que vous dites ?
Oui, aucun de nous, quasiment à une exception près, n'avait envie de sortir. Ouais. On n'avait pas fini notre expérience. On n'avait pas fini l'aventure. Pour nous, on était au 30e jour. On était parti pour 40, pas 30. Donc, on n'avait pas fini. On avait des tas de projections, des tas d'envies. Et puis, on a aussi vécu quelque chose d'extraordinaire. Pas de téléphone, pas d'email, pas d'informations. Je veux dire, tout ce que vous avez vécu sur la Covid, sur malheureusement les attentats qu'il y a eu dans d'autres endroits du monde, sur le Myanmar et tout ça, ben nous, on était ultra préservés.
Il n'y a pas des moments d'inquiétude pour vos proches ? Vous n'avez pas de nouvelles par définition ?
Non, on n'a pas de nouvelles et les proches n'en avaient pas non plus. Alors je dirais que nous, je pense qu'on a beaucoup mieux vécu la chose que nos proches, qui eux, en tout cas les proches de certaines familles, n'ont pas l'habitude de ne pas avoir de nouvelles. Nous, on était assez préservés parce qu'on était dans une sorte de système autarcique. On vivait les uns avec les autres et chaque fois que quelqu'un n'allait pas très bien, il y avait quelqu'un pour le prendre par l'épaule et on a vraiment créé une communauté. Moi, je suis admiratif de ça. J'ai vécu beaucoup d'expériences de groupe. Mais là, on avait bien travaillé pour qu'on puisse vraiment avoir un groupe ultra qualitatif et très divers. Et ça a été une vraie expérience de réussite.
Et du coup, là, vous avez le petit blues de quand on rentre de colo, là, ou pas ?
Un peu, mais maintenant, l'avantage, c'est qu'on a... La chose passionnante, c'est qu'on sort avec des milliers et des milliers de données scientifiques.
Vous allez en faire quoi, toutes ces données ?
Alors, il y a une trentaine de chercheurs, une douzaine d'équipes différentes qui vont maintenant prendre en charge ces données. Il y a l'Institut de l'adaptation humaine pour certaines, bien sûr, mais il y a Comet à Caen, il y a le laboratoire de neurosciences cognitives, l'École normale supérieure, il y a beaucoup. Chacun va prendre maintenant ces données et va les analyser. Et puis ensuite, une fois qu'ils ont analysé séparément, on va les grouper, les recouper pour voir comment elles s'inscrivent les unes par rapport aux autres. Comment la génétique a influencé la cognition, comment la psychologie ou la sociologie a influencé la génétique, et ainsi de suite.
Parce que tout le monde est débriefé. Hein. Les 15, vous êtes débriefés en quelque sorte.
Absolument.
Vous voyez tous les spécialistes.
Ce sont des personnes qu'on suit depuis plus de 2 ans avant, pour avoir vraiment un état basal de chacune de ces personnes, qu'on a suivi pendant la grotte et qu'on va suivre maintenant pendant 2 ans. Donc on a vraiment un suivi global de ces personnes, le avant, pendant, après.
Il va vous falloir combien de temps pour vous re-régler, vous le savez ou pas?
Alors, je pense qu'en en une semaine, 10 jours, on devrait à peu près être re-réglé, mais je pense sincèrement qu'il va rester des traces pendant plusieurs mois de cette expérience et que ce sera intéressant. On va refaire évidemment tous les examens régulièrement et on verra les traces qui restent à long terme et celles peut-être qui seront définitives.
Qu'est-ce qui vous a le plus manqué? À part Louis Baudin, que vous connaissez bien, je sais, mais qu'est-ce qui vous a le plus manqué
Non, ce qui nous a, en fait, très, sincèrement, et c'est pas du tout pour être méchant avec la surface, mais très peu de choses nous ont manqué.
Ça nous fait plaisir. Bien, on est content de vous avoir réinvité. Bien,
mais évidemment, quand je pensais que j'allais peut-être revenir sur RTL après, je me suis dit, voilà, il faut que je sorte pour aller sur
RTL.
Oui,
bien sûr, bien sûr. Vous le referez? Il y a un autre départ prévu ou pas?
J'espère beaucoup. Je pense qu'on a fait une vraie première étape extrêmement intéressante. Il faut reproduire l'expérience pour voir si ça se passe de la même manière.
40 jours aussi ou ça peut être plus?
Je pense qu'il faudra changer les durées. Il faudra faire évoluer certains critères pour voir qu'est-ce qui est le plus influenceur. Est-ce que c'est la durée? Est-ce que c'est l'absence totale de soleil ou autre? Mais toujours est-il qu'on va reproduire l'expérience. Et puis déjà, cette même équipe, pour la plupart, va repartir si possible en fin d'année en Amazonie pour d'autres étapes de cette aventure. Et ça va être assez extraordinaire.
Louis, vous êtes partant pour y aller ou pas?
Ah bah oui, je suis partant pour suivre en tout cas. Ouais. Ouais. Christian, de toute façon, je le suis déjà dans ses exploits qu'il a réalisés tout seul dans des milieux extrêmes, notamment météorologie, humide, froid, sec, chaud, et il a là aussi subi des tests pour voir comment l'homme s'adaptait dans ces conditions extrêmes.
Allez, restez dans des conditions tempérées, on va vous servir un petit café, c'est cadeau, c'est gratuit. C'est merci Christian-Claude d'être venu dans RTL Soir.
Merci.
Il viendrait nous raconter la suite alors.
Un vrai plaisir. Et puis sur deeptime.fr, vous aurez les résultats au fur et à mesure de leur sortie.
Et là, il garde le sens de la promo, deeptime.fr. Merci à vous. Une grande partie de l'Italie se déconfine, on en a parlé tout à l'heure dans le journal de 18h. Il y a notamment Venise et Julia a décidé, Julia Molcou, de nous y emmener tout de suite. C'est la culture de l'actu à la sauce Dolce Vita.
RTL Soir, Thomas Soto.
RTL Soir, avec Thomas Soto.
Et Julia Molcou pour la culture de l'actu. Bonsoir Julia.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
L'Italie rouvre donc progressivement ses lieux de culture et ses terrasses. C'est le cas notamment à Venise. Alors ce soir, nous sommes vénitiens avec vous.
C'est Vivaldi. C'est un extrait de son concerto pour deux violons parce que Vivaldi n'a pas écrit que les quatre saisons. De la même façon qu'à Venise, il n'y a pas que des gondoles et des amoureux transis. Non, vous allez le voir, Venise, c'est aussi une histoire de masques, mais aussi de musique et d'orphelines.
D'orphelines.
Oui, parce qu'au XVIIIe siècle, quatre hospices à Venise recueillaient les petites filles abandonnées ou nées hors mariage et les formaient à la musique. Le plus célèbre, c'était l'Ospedale della Pietà, où Vivaldi... Et donc maintenant vous comprenez pourquoi on avait Vivaldi, enseigna presque 40 ans. Et si la musique était partout dans cette ville à cette époque, eh bien le point culminant de la vie musicale à Venise, c'était bien sûr le carnaval.
C'est donc, et je lis, un extrait des 20 variations musicales sur le carnaval de Venise composées par Paganini.
Et interprété par Salvatore Accordo.
Une difficulté inouïe.
Inouïe.
Allez-y.
Virtuose. Toute l'aristocratie européenne au XVIIIe se presse à Venise pour profiter de cet anonymat pendant le carnaval qui leur permet, bien cachés sous leur masque, de se rendre à l'opéra, applaudir Farinelli par exemple, le plus célèbre castrat, ou d'aller jouer au Ridotto. Et qu'est-ce que c'est le Ridotto? Eh bien c'était à peu près l'ancêtre du casino. Et qui
le
a
Ridotto.
Décrit... Le Ridotto aussi. Ouais. Et qui a décrit dans le détail la tension et la passion du jeu qui émanait du Ridotto? Eh bien c'est Casanova, militaire, espion, diplomate, libertin, mais surtout vénitien.
Ça a marché haute là.
Ouais.
Oui, alors c'est pas toujours facile d'illustrer.
Ah oui,
faut pas m'en vouloir. J'ai passé vraiment beaucoup de temps à chercher une chanson qui racontait Casanova, rien à part ça. Merci beaucoup.
La compagnie créole, mais qui a aussi ses atouts.
Exactement. Alors entre Casanova et nous, eh bien, il y a deux siècles d'incompréhension. L'aventurier vénitien était bien plus qu'un don juan de salon. Abandonné par sa mère, élevé par sa grand-mère, il aimait séduire et il fait de sa vie une farce. Même lorsqu'il s'évade de prison, c'est en habit de fête. Dandy, joueur, voyageur, auteur, tombeur, franc-maçon, amoureux et grand ami des femmes, 16 films lui seront consacrés, dont celui très connu et pas très flatteur de Federico Fellini en 76.
Ah, mais je pensais qu'il y avait un extrême. Donc, en parlant de cinéma, il y a aussi de nombreux films qui se passent à Venise, hein, évidemment. C'est une scène magnifique.
Il y en a plein. Il y a évidemment Tout le monde dit I love you, de Woody Allen. Mm-hmm. On passe aussi à Venise quand on regarde Nikita, de Luc Besson. Sans oublier Mort à Venise, ouais. L'adaptation du roman de Thomas Mann.
Celui-là, il valait mieux le tourner à Venise qu'à Berlin. Hein,
oui, c'est sûr. Mais celui qui en parle le mieux de ce film, c'est encore l'humoriste Alex Vizorek.
Qui a vu Mort à Venise, hein? Je vais être très honnête. Ça n'est pas une grosse poilade. Et on le sent extrêmement rapidement. Je dirais même qu'on le sent avant que ça commence à cause du titre qui est le plus mauvais titre de toute l'histoire du cinéma. Mort à Venise, on sent bien qu'il va lui arriver quelque chose.
Bon, et puis Venise, bien sûr, c'est une histoire de chanson. Mais si vous voulez bien, on va laisser les gondoles à Sheila Eringo. On va laisser la Venise triste de Charles Aznavour.
Ben, c'est triste, Venise.
Oui, ben non. Bon, et d'accord. On va plutôt écouter Serge Reggiani qui nous rappelle que si on veut, ben Venise, c'est pas forcément en Italie.
Venise n'est pas en Italie, Venise c'est chez n'importe qui. Fais-lui l'amour dans un grenier et foutez-vous des gondoliers. Venise n'est pas là où tu crois, Venise aujourd'hui.
Bon, Venise, c'est aussi la ville que l'humanité voit chaque jour un peu plus s'enfoncer. Alors c'est vrai qu'on peut être pressé d'y inviter quelqu'un qu'on aime, comme le chantait déjà Nilda Fernandez en 91.
Faut que je t'invite à Venise avant que l'eau l'ait noyée. On fera ni les églises ni les galles.
Et puis Julien Clerc, un jour, a rencontré une fille et elle lui a demandé qu'un seul truc. Appelle-moi Venise.
Elle voulait que je l'appelle Venise. Vous me voyez, maille oreillée, la voix soumise en gondolier. Pagayant pour une cerise.
Allez, écoutez un petit peu.
Elle voulait qu'on l'appelle Venise. Quelle drôle d'idée. Quelle drôle d'idée. Quelle drôle d'idée.
Du Goldman. Non, non, non. Il y en aura demain. C'est bien. Hein.
J'adore.
J'ai quand même moins de Goldman.
On est sûr que c'est pas un texte de Goldman ?
Non, on est sûr et certain. Allez, merci beaucoup, Julien.
À demain.
À demain. Julien, il faut s'arrêter maintenant.